L'histoire justifie-t-elle la violence? Le négationnisme. Nous allons reprendre le texte de Pierre Vidal-Naquet, qui est un historien, texte sur le négationnisme et le révisionnisme, qui nous permet d'une part de définir le négationnisme et le révisionnisme, et de montrer en quoi la démarche de l'historien et des historiens et leur méthode est absolument différente de la démarche et de la méthode des négationnistes-révisionnistes. Donc, mon but, ça va être de montrer justement en quoi se distinguent ces deux approches des faits historiques et ce qui fait la spécificité de l'histoire comme science. La première partie du texte de Pierre Vidal-Naquet porte sur le révisionnisme, spécifiquement celui de la Shoah, c'est-à-dire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Je vais commencer par définir ce que c'est que le révisionnisme, la différence entre révisionnisme et négationnisme. Le révisionnisme, c'est l'attitude qui consiste à remettre en cause, à vouloir réviser l'histoire que les révisionnistes diront officielle. Donc l'histoire qui fait consensus parmi la communauté des historiens et qui en général est acceptée par la société dans laquelle vivent les révisionnistes. Mais comme vos camarades vous l'ont montré, en fait, le révisionnisme peut être aussi un révisionnisme d'État, comme c'est le cas avec la Turquie, dont on reparlera un petit peu. Donc ça, c'est pour le révisionnisme. Donc on veut réviser l'histoire entre guillemets officielle. Et ça ne va pas forcément. Alors la différence avec le négationnisme, c'est que le révisionnisme ne va pas forcément jusqu'au négationnisme. Le négationnisme, ça consiste à nier un fait historique qui a été établi par les historiens sur lesquels il y a normalement un consensus. Donc, c'est pas, si vous voulez, le négationnisme, c'est un révisionnisme qui va très loin, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à nier des faits historiques. Donc, dans le premier temps du texte, Pierre Vidal-Naquet va mettre en évidence ce qu'il estime être les six dogmes, les six postures ou les six thèses classiques des révisionnistes de la Shoah. Je passe, il suffit de les lire, c'est ici descriptif. Ce qui m'intéresse plus, c'est donc après les six points de doctrine, vous avez une petite conclusion qui consiste à montrer quelles sont finalement les conséquences de ce révisionnisme et quel est le but qui est recherché par le révisionniste. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est cette citation qui est en gras. Elle est, dans notre société de représentation et de spectacle, une tentative d'extermination sur le papier qui relaie l'extermination réelle. Alors, ce passage est intéressant. Pourquoi? B, parce qu'il montre comment le discours sur l'histoire qu'on produit a des effets et peut être lui-même violent. L'expression extermination sur le papier est extrêmement forte et donc elle montre quel est le rôle et la responsabilité en fait de ceux qui tiennent, qui produisent des discours sur l'histoire. Je peux, en niant l'existence d'un fait historique, en refusant de reconnaître un fait historique, avoir un effet de violence sur ceux qui ont subi cet événement que je dis ne pas avoir existé. Et au contraire, ben on attend peut-être aussi de l'histoire la reconnaissance qui permet de penser les plaies d'un peuple ou d'une communauté. Là, on peut penser donc à la communauté des Juifs qui au-delà des victimes réelles, vit généralement comme une souffrance et un traumatisme, ce pan de l'histoire qui commence à dater, mais qui laisse encore des traces dans cette communauté. Donc, l'histoire, quand elle reconnaît, elle peut permettre une forme de de soulagement ou de guérison, voilà, de panser les plaies, et au contraire, le discours révisionniste ou négationniste peut avoir cet effet absolument inverse de raviver la souffrance et donc d'être une espèce de violence supplémentaire, une violence à la deuxième puissance, on pourrait dire, un peu une violence au carré en fait, qui est liée à l'absence de reconnaissance. Dans la suite du texte, on va avoir donc une confrontation. On voit qu'il y a en fait deux discours historiques qui sont concurrents. Le discours des historiens, l'histoire des historiens, et le discours des révisionnistes qui ressemble en fait à celui des historiens qui prétend être une contre-histoire ou une nouvelle histoire. Et donc, le but de Pierre Vidal-Naquet va être de montrer en quoi l'historien s'oppose aux révisionnistes. Et donc, on va voir quels sont les traits qui les opposent. On va expliquer la deuxième expression que j'ai mise en gras dans le texte. Donc, c'est le début du deuxième paragraphe. L'historien, par définition, vit dans le relatif, et c'est bien ce qui lui rend si difficile l'appréhension du discours révisionniste. Le mot lui-même n'a rien qui choque l'historien. D'instinct, il fait sien cet adjectif. Alors, que fait ici Pierre Vidal-Naquet? Il fait quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que il étudie le terme révisionniste pour ce qu'il est et montre que l'historien, finalement, est nécessairement révisionniste, que c'est l'essence même du travail de l'historien que d'être à la recherche de la vérité et donc éventuellement de revenir sur des thèses, sur des interprétations, des faits historiques, etc. Si jamais il trouve de nouvelles preuves, de nouveaux documents qui s'opposent à ce que la recherche historique avait pour le moment défini sur les faits qui font l'objet de sa recherche. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression l'historien vit dans le relatif. Il vit dans le relatif, ça veut dire qu'il ne vit pas dans l'absolu. Il ne vit pas dans la vérité, en fait. Il ne vit pas dans la vérité absolue. Les historiens sont à la recherche de la vérité qui n'est jamais en histoire complètement acquise. Ça, c'est la difficulté des historiens, c'est que par définition, ils travaillent sur des faits qui sont révolus et dont ils ne peuvent plus faire l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ben, ils essaient de se rapprocher le plus possible de la vérité et ils ne tiennent pas les acquis historiques comme des vérités absolues et ils peuvent les remettre en cause. La vérité en histoire, c'est toujours une vérité qui est une vérité relative, c'est-à-dire qu'elle est relative à l'état actuel des recherches, à l'état actuel des documents qui sont en notre possession et ça peut potentiellement changer. Et donc l'historien doit toujours être ouvert à ce changement de perspective. Du coup, ça nous permet de mieux comprendre la phrase suivante que j'ai mise en gras à la fin de ce paragraphe. Un discours historique est un réseau d'explications qui peut céder la place à une autre explication dont on jugera qu'elle rend mieux compte du divers. Et donc, dans la suite du texte, va apparaître la différence entre la démarche de l'historien et la démarche du négationniste ou du révisionniste. Regardons la formule que j'ai mise en gras. Sa perfidie est précisément d'apparaître pour ce qu'elle n'est pas, un effort pour écrire et penser l'histoire. Mais nier l'histoire n'est pas la réviser. La démarche des révisionnistes, elle est ici qualifiée de perfide. Ce qui est perfide, quelqu'un de perfide, c'est quelqu'un qui est mal intentionné, cache ses mauvaises intentions derrière des apparences de bonnes intentions. Donc là, ici, en fait, les révisionnistes ou négationnistes se cachent derrière une apparence de démarche historique pour en fait cacher de mauvaises intentions. On a vu que l'intention de l'historien, c'était quoi? C'était de découvrir la vérité historique. Ce que va cacher Le négationniste, c'est son intention réelle. Son intention réelle n'est pas de découvrir la vérité historique, mais de faire valoir la version de l'histoire qui l'arrange. Le négationniste, il a un objectif idéologique. Il veut imposer une idée. Dans le cadre de la négation de la Shoah, le but, c'est de continuer à justifier en général une idéologie antisémite en disant que soit on a exagéré, soit carrément la Shoah n'a pas existé et a été inventée. Et ça va même, du coup, ça se retourne même en théorie du complot. C'est bien la preuve, cette invention de la Shoah, ce serait bien la preuve d'une forme de complot juif. Et voilà, et donc on a justifié son idéologie. En fait, on pourrait dire que le négationniste, il fait à l'échelle politique ce que nous faisons toujours un peu tous quand on n'est pas très fier de choses qu'on a faites, de choses mauvaises qu'on a faites, on peut avoir tendance à les nier, on peut être dans le déni pour sauver un petit peu la face, pour pouvoir être bien avec soi-même ou en accord avec soi-même. Donc on nie certains faits, on efface certains événements de notre histoire personnelle. Et c'est pour ça que les négationnismes, ils portent sur des faits de guerre, sur des faits violents, sur des faits qui sont moralement condamnables. Donc là, c'est la Shoah. Mais le deuxième exemple sur lequel j'avais demandé à vos camarades de travailler, c'était celui de la Turquie. Ça résonne avec l'actualité récente, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais Joe Biden, donc président des États-Unis, vient de reconnaître le génocide arménien. Donc génocide arménien, c'est 1,5 million d'Arméniens, donc qui étaient à l'époque une province de la Turquie, enfin de l'Empire ottoman. Donc 1,5 million d'Arméniens qui ont été, bon, voilà, exterminé par l'armée ottomane, l'armée turque en 1915, hein, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Or, plus de 100 ans après, ça fait donc 105 ans, 106 ans même, donc plus de 100 ans après, la Turquie, en tant qu'État, n'a encore toujours pas reconnu ce fait, et c'est un peu une sorte de tache de son histoire, et donc il y a un négationnisme qui est un négationnisme à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une société tout entière, par rapport à un fait dont de l'extérieur personne ne doute vraiment. Et forcément, ça fait aussi des pressions sur les historiens turcs, sur la recherche historique turque, le fait que l'État ne veuille pas reconnaître ces faits. Donc, grâce à ces exemples, on comprend mieux la dernière des phrases, la citation que Pierre Vidal-Naquet a emprunté à deux de ses collègues. Curieux historien en vérité que ces gens qui, au lieu de s'attacher à connaître le déroulement exact des événements, s'intitulent juges des pièces à conviction d'un procès qui n'a lieu que parce qu'ils nient l'existence de l'objet du litige. La métaphore du procès est ici intéressante, puisque les négationnistes accusent l'histoire, les historiens, de produire ce qu'on appellerait aujourd'hui un fake historique. Ils les accusent de créer un événement, de créer les preuves de cet événement, et finalement ils les accusent d'une forme de complot général dans une démarche qui est complètement anti-scientifique. Et on peut mettre ça en lien avec le développement aujourd'hui des théories complotistes, anti-scientifiques, souvent, qui remettent en cause les paroles d'experts parce que ces discours et ces paroles ne vont pas dans le sens de ce qu'ils souhaitent défendre. On peut prendre par exemple les platistes, ceux qui défendent que la Terre est plate et que l'ensemble des scientifiques, l'ensemble des enseignants, etc., etc., font finalement partie d'une espèce de grand complot consistant à cacher la vérité aux citoyens, Donc c'est exactement la même chose que dans le négationnisme. Donc, pour résumer sur les acquis de ce texte et de ce travail sur le négationnisme par rapport à notre sujet, l'histoire justifie-t-elle la violence? Nous pouvons dire que le rôle de l'historien, sa démarche, son but, c'est de chercher la vérité historique. À ce titre, l'historien, donc deuxième élément, l'historien va éventuellement mettre en évidence, montrer des violences parfois cachées ou que le politique cherche à cacher pour éviter d'avoir à assumer les conséquences de ses actes et de ses actes potentiellement criminels dans les temps de guerre. Troisièmement, ceux qui veulent justifier la violence, en réalité, ce ne sont pas les historiens, mais ce sont ceux qui ont quelque chose à perdre d'un point de vue politique à l'exposé de cette violence. Et ceux qui ont à perdre, ce sont soit des idéologues, des idéologues antisémites par exemple, comme l'était Faurisson, notre premier exemple de l'exposé. Soit ce sont des États, soit ce sont et des communautés tout entières qui ne veulent pas assumer les conséquences de leurs actes passés, soit ce sont des hommes politiques qui sont au pouvoir et qui ont besoin de cacher la réalité des conséquences néfastes de l'exercice de leur pouvoir pour pouvoir conserver justement ce pouvoir, être réélu. Donc là, ce serait typiquement le cas de Bolsonaro au Brésil. Enfin, quatrièmement, on peut donc dire que l'histoire des historiens ne justifie pas la violence et que bien au contraire, en montrant cette violence, en montrant la vérité a posteriori des guerres, en faisant les bilans des victimes, etc., elle peut avoir un effet de dénonciation de la violence, alors qu'au contraire, les pseudo-discours du type pseudo-discours historique du type roman national, en fait, donc ce type de discours, lui, vise à justifier la violence en la masquant ou en modifiant la réalité, en révisant, en faisant du révisionnisme, c'est-à-dire en mettant en cause les acquis de la science historique et des chercheurs en histoire.